Besson René,
présent.
Sophie Jack,
présent.
Vauvel Dominique,
présent.
Lambrou Laurent.
Présent.
Je vous propose, si vous êtes d'accord, de prendre comme secrétaire Dany Orion. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Alors, il y a pas mal de délibres aujourd'hui. Il doit y en avoir 14, mais on en a retiré une. Alors, les délibérations, c'est l'intercommunalité transfert de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Encore intercommunalité présentation du rapport d'activité de développement durable 2020 de la CARA. Affaire générale, présentation du rapport d'activité 2020 de l'établissement public foncier EPFLNA. Affaire générale, détermination du nombre de postes adjoints suite à la démission de la quatrième adjointe. Affaire générale, encore élection d'une nouvelle adjointe au maire suite à la démission. Affaire générale, fixation de l'indemnité de fonction de la nouvelle adjointe. Affaire générale, modification de la composition de la commission municipale, association multiculturelle, fête et animation cérémonie officielle. Affaire générale, désignation des nouveaux représentants du conseil municipal dans la commission de travail et de réflexion numéro 11, culture et patrimoine, de la CARA. Finance, demande de subvention auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime pour la démolition du bâtiment de l'ancienne poste. Modification du plan de financement. Finance encore, demande de subvention auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime au titre des amendes de police, réalisation de travaux de sécurité. Finance, décision modificative numéro 2. Finance, demande de subvention exceptionnelle de l'association Orchidée, donc celle-ci a été retirée. Ressources humaines, recrutement dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences PEC et ressources humaines, convention avec le centre de gestion de la Charente-Maritime pour la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Voilà, décision du maire, questions diverses. Alors, on va commencer par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 7 juillet 2021. Est-ce qu'il y a des remarques?
Alors, moi, je vais m'abstenir, enfin, je ne vais pas approuver le compte rendu, le procès verbal.
Plus fort, Sophie.
Je n'approuve pas ce procès verbal parce que je trouve que le résumé d'une question à laquelle on a consacré plusieurs minutes. Concernant les travaux qui avaient été faits, donc c'est le chemin qui rejoint la Lézard Régionnée à Boulonge, dans le PLV, c'est Monsieur le maire répond qu'il n'y a pas de travaux à cet endroit et qu'il s'agit d'un chemin rural.
Oui.
C'est,
oui.
C'est un peu court quand même.
Non.
Enfin, on avait consacré.
Mais c'est exact.
Plusieurs minutes à ce sujet, oui, mais oui. Ce n'est pas le résumé de ce que nous avions dit. Madame Perron était intervenue, tu avais dit que ça concernait trois riverains, qu'effectivement, c'était pas. Une allée très passante, mais que le facteur y passait.
Oui, tout à fait, voilà. C'est ce que j'ai dit.
J'ai demandé si les travaux avaient été prévus en commission de voirie. Tu m'as répondu que non, ça avait été fait en régie.
Oui.
Voilà, donc je trouve que cette phrase est un peu succincte pour le temps que nous avions passé sur le sujet. Et je regrette, j'aimerais bien que ça soit.
On va reprendre la discussion qu'il y a eu, puis on complétera la réponse.
Bon, mais quand on modifie des choses. Je ne vois pas la modification dans le conseil municipal, dans le procès verbal. Je ne sais pas si les modifications...
On va regarder ça, Jérémy. Hein?
En tout cas, voilà.
Qui c'est qui avait fait le... C'est Norbert. Parce que c'est lui, on reprend ce qui a été écrit. Hein. Après, c'est mis par les lire au propre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions, donc deux contre, une abstention, René. Et deux votes contre, Sophie et Liliane. Pas de problème. Alors, on continue par la première délibération. Transfert de compétences en matière de gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020, à proposition du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la TECLET. Donc, depuis le 1er janvier 2020, normalement, c'est la CARA qui est compétente pour s'occuper des eaux pluviales urbaines. Donc, je ne parle pas des eaux pluviales rurales, que ce qui est dans les endroits qui sont classés en U, ou AU, UB, AU, ou UA, ou voilà. La commission, alors je ne vais pas tout relire parce que j'espère que vous l'avez lu, mais je vais lire une partie. La commission locale d'évaluation des charges transférées, composée des représentants des communes membres, s'est réunie le 13 septembre 2021 et a adopté à l'unanimité des suffrages exprimés le rapport joint à en annexe. Le transfert de charges traduit le principe de la neutralité financière du transfert de compétences entre les communes et la communauté d'agglomération. Il appartient désormais aux conseils municipaux des communes membres de délibérer sur le rapport et dans un délai de 3 mois à compter de sa notification. Il est nécessaire de recueillir la majorité suivante, 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population de la CARA. Une fois le rapport de la CLEP approuvé par les conseillers municipaux, la communauté d'agglomération approuvera pour chaque commune membre concernée le niveau montant de l'attribution de compensation. Donc voilà. Donc la CLEP se décompose en 2 choses. J'espère que vous l'avez lu, que vous l'avez regardé. Alors, que je retrouve la page, il y a du fonctionnement et des investissements. En ce qui concerne la commune, dans la CLECT, le versement est de 26 351 euros. Alors, comment ça a été calculé? C'est la population DGF, 35%, le linéaire réseau, 35%, et la surface urbaine, 30%. Voilà comment le calcul a été fait, et ça, c'est pour toutes les communes, pareil. Et on a pris les DGF, le linéaire et la surface par commune. Et on se retrouve avec, pour les investissements, 62 012 euros. Alors, le principe de cette claque-là est un petit peu particulier. C'est que tout ce qui est fonctionnement sera reversé à la commune, et tout ce qui est investissement sera des investissements sur la commune. Ça veut dire que c'est pas, on ne verse pas de l'argent à la CARA pour que ça serve pour les autres communes. C'est exceptionnel, c'est pas dans les textes, mais c'est comme ça. Le président a voulu que ça se fasse comme ça. Moi, j'ai fait la visite des 33 communes pour ça, et donc il a été important de notifier les choses, et ce qui en ressortait, c'était ça, c'est que les communes ne voulaient pas perdre d'argent. Et ça se comprend tout à fait. Donc ça veut dire que les 62 000 d'investissement, c'est des investissements qu'on peut faire. Les Royans, par exemple, je prends l'exemple, est à 427 000. Voilà. Mais on ne va pas verser 62 000 pour les autres communes. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Alors, on passe encore. Intercommunalité, présentation du rapport d'activité de développement durable 2020 de la communauté d'agglomération. Alors là, c'est pas, il n'y a pas de vote, mais on prend acte. Donc, vous avez eu le rapport. Donc il était possible de l'avoir. Il y avait un lien pour le télécharger ou le lire, parce que télécharger, c'est quand même un dossier assez important. Moi je pense qu'il ne faut pas le télécharger, mais bon voilà, il faut le lire. Il faut y retourner plusieurs fois, parce que le lire à suivre, c'est assez compliqué. Alors, monsieur le maire rappelle que conformément aux dispositions de l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le rapport d'activité de la CARA doit être présenté aux conseillers municipaux des communes membres. Ce document, qui représente les compétences des actions et des grands projets portés par l'agglomération Orient-Atlantique, a été transmis par voie numérique, lien de connexion pour le téléchargement, aux membres du conseil municipal, à qui est demandé de prendre acte du dit rapport. Est-ce qu'il y a des questions, quand même? On peut avoir des questions sur ce rapport. Si je peux répondre, je réponds. Donc, on prend acte. On est d'accord pour prendre acte du rapport. Merci beaucoup. Alors, je continue. Affaire générale, présentation du rapport d'activité 2020 de l'EPF. C'est pareil, là, on prend acte, comme on est adhérente à l'EPF, donc on travaille avec eux, donc ce qui fait qu'on doit donner un avis sur leurs travaux, quoi. Alors, dans le cadre du projet porté par l'EPFNA pour la réalisation d'une opération de construction de logements sur le site des Bois des Marineaux, monsieur le maire présente au conseil municipal le rapport d'activité 2020 de cet organisme public qui accompagne les collectivités dans leurs projets fonciers. Le document a été transmis par voie numérique, lien de connexion pour téléchargement, aux membres du conseil municipal, à qui il est demandé de prendre acte du rapport. Est-ce qu'il y a des questions ? Il est moins épais que celui de la CAR, heureusement.
Je savais même qu'il avait fait la construction des arcades,
non ? Non, c'est la CEMIS. C'est la CEMIS qui avait fait la construction des arcades. Le PF, c'est ceux qui s'occupent du terrain qui est derrière le cimetière.
Ça, je m'en avais bien saisi. Mais... Voilà. Encore une fois, c'est des fonds publics.
C'est des fonds publics, tout à fait. Non, c'est des fonds qui sont payés par les pénalités qu'ont les communes sur le manque de logement. On est en train de faire un éco-relais qu'on va distribuer ce week-end et dans la semaine prochaine, et on a détaillé. Et si les communes n'ont pas le nombre de logements sociaux, ou aidés, ou il y a tout un tas de logements locatifs, hein, elles ont des pénalités. Et c'est cet argent-là qui sert à l'État pour acheter les terrains.
Il faut préciser
pour faire les opérations.
Les communes de plus de 3500 habitants.
De plus de 3500 habitants.
Préciser aux communes.
Voilà, tout à fait. Donc il y en a, là j'ai pas le. Mais bon, après vous le lirez, chacun va l'avoir dans sa boîte. Donc on a fait un gros travail dessus. Question continue, détermination du nombre de postes d'adjoints suite à la démission de la quatrième adjointe. Monsieur le maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif minimal maximum de 6 adjoints. Vu la délibération du 26 mai 2020 relative à l'élection des adjoints du maire fixant leur nombre à 6, vu la lettre reçue le 3 septembre par laquelle Mme Christelle Jambert informe M. le maire de sa démission, vu le courrier de M. le préfet reçu le 20 septembre prenant acte de la démission suivisée, suite à la démission de Mme Christelle Jambert au poste de 4e adjoint, il est proposé au conseil municipal de maintenir à 6 le nombre de postes d'adjoints. Est-ce qu'il y a des questions ?
Parce que passer à 7,
c'est pas possible. Et le comble, c'est que la loi Le Cornu dit qu'on ne peut même pas remplacer un homme par une femme. Donc il faut toujours la parité. Donc c'est assez C'est assez vicieux comme loi. Ça date de, du mois de décembre 2019, juste avant les élections. Et on ne peut pas remplacer Christelle par un autre membre du conseil municipal qui aurait pu avoir ce titre. Par un homme. Par un homme.
Et comme le reste, on doit subir.
Ben, on subit, on fait tout ça, mais c'est comme ça.
On peut exprimer fait pour subir. Bon.
Mais t'as raison, on subit. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a deux questions? Parce qu'il n'y en a pas eu encore, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet?
Mais on peut savoir, Madame Jean-Pierre, elle reste quand même dans le conseil municipal?
Oui, elle a simplement démissionné de sa d'adjointe.
Et de son de sa délégation à la CARA aussi alors?
Ah ben oui, ça va avec. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Et il n'y a pas de motif, elle n'avait...
Il y a des motifs personnels.
Rien écrit à mentionner.
Non, c'est des motifs personnels. C'est... Non, il n'y a pas eu de problème au niveau du conseil. Non, si c'est ça que tu veux savoir.
Non, je veux savoir s'il y avait un courrier.
Ah ben, elle a fait un courrier, elle est obligée de faire un courrier.
Non,
ah ben, vous voulez que je vous lise le courrier? Ah non, mais c'est un courrier qui est là. Mais bon, après, c'est privé, il n'y a rien dessus. Hein. C'est comme quoi elle dit qu'elle démissionne de sa place d'adjointe. Voilà. Alors, j'ai fait voter non. Le si. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Alors, après affaires générales, on est toujours dans l'élection d'une adjointe. Donc là. Ah oui, pardon. C'est un vote à bulletin secret. Je ne l'ai pas vu, moi. Non, non, il n'y a pas de problème. On est obligé de faire un vote à bulletin secret. Donc, vu la libération du 1er octobre 2021 portant création de 6 postes d'adjoint au maire, vu la loi du 26 décembre 2019 qui prévoit que quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi des conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. C'est la loi Le Cornu. Considérant la vacance d'un poste d'adjoint au maire, dont la démission a été acceptée par M. le préfet par courrier du 20 septembre 2021, considérant que lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut délibérer que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu démissionnaire. Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant du quatrième adjoint, considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Donc, est-ce qu'il y a des candidats? Justine, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Candidat. Donc, on va passer au vote. D'accord. Alors, il faut énumérer les gens qui vont voter.
Si vous avez votre stylo personnel,
ouais, c'est mieux. Chacun son stylo. Si, ouais, il y en a un là-bas. Ou alors, on n'énumère pas, mais. Si. Ah oui, qui c'est qui va être scrutateur? Mais il faut une personne. Sophie ou Fabienne hein? Allez, Fabienne. Oui? Non, non, mais c'est un bulletin secret, tu ne peux pas faire autrement. Alors. Oui. Alors, bon, moi j'irai voter après, quand j'aurai fini, mais bon, c'est bon. Alors, Ranaletta Stéphane. Et à ton tour. Orion Dany. Grosche Marie Noël. Ah oui, d'accord. Alors, Guillaume Martin. Il va donner des bulletins. Non. Bah, s'il y a, c'est qu'il y en a deux, il y en a qu'il faut deux enveloppes. Et deux papiers. Donc il en faut deux à Patrick Jelin, deux à Bonhomme Valérie, deux à Justine Pinson et deux à Philippe Sacotti. Deux à Patrick. Et ben Justine Pinson a des pouvoirs aussi. Bonhomme Valérie.
Ouais, pour le pouvoir.
Patrick, c'est bon. Et Philippe Sacotti. Et je signe. Voilà.
C'est bon.
C'est bon. Après, c'est à Fabienne. Bonhomme Vénéry. Donc, tu votes pour Sylvie Mayer. Sophie. Thauvin Gary. Thauvin Gary. Pardon. Meyer Liliane. Besson Bonnet. Sophie Jacques. Vauvel Dominique.
tout à l'heure.
Oui, ils sont candidats. Oui, Vincent, ben oui, mais d'accord. Votant 23, bulletin 23, blanc et nul 5, suffrage exprimé 18, majorité absolue 12, 18 pour Vincent. Merci. Félicitations, bon, je vais mettre à boire au frais, on arrive. Alors, fixation de l'indemnité de fonction de la nouvelle adjointe. Donc c'est un calcul qui est fait, hein, je ne vais pas redire tout, mais c'est 15,43% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Qui est un montant de... Je ne sais pas si on l'a, le montant.
Le montant valeur absolue ?
Oui.
C'est autour de 600.
Oui, non, mais je veux dire... Non, le montant... on prend 15% du montant.
Alors, je dis brut terminal de la fonction publique, on le vise parce qu'il est évolutif.
Ah oui, d'accord.
Et notamment l'inflation. Mais sinon, si ça doit générer un salaire, j'imagine,
je ne
sais pas combien de l'euro.
Ouais.
Là, c'est un pourcentage.
C'est un pourcentage qui fait environ 600 euros brut. Hein.
Oui.
C'est ça. Oui, qu'on avait voté en module, oui, tout à fait. Net, ça fait moins, mais brut, ça fait ça. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de questions, d'abord, des questions. J'ai oublié les questions. Non, mais ça, c'est pour l'indemnité. Hein. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Et est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Alors après, ça découle par des modifications de la composition des commissions municipales. Donc, il y a plusieurs, il y en a plusieurs qui sont différentes, mais on s'arrêtera sur celle qui est sur la composition des commissions municipales, associations, salles multiculturelles, fêtes et animations, cérémonies officielles. Donc, à la place de, si on reprend le tableau qui avait été fait, association, salle multiculturelle, fête et animation, cérémonie officielle. Il y avait Jacques-Lise, président, et vice-président, il y avait Christiane Jean-Pierre. Donc, on met Jocelyne Pinson à la place. Voilà. Et la commission se déposera comme suit. Jacques-Lise, Jocelyne Pinson, Sophie Perron, Christiane Jean-Pierre. Change de numéro. Valérie Bonhomme, Norbert Desquin, Marthe Renaud-Jeantrin, Fabienne Ouvrard, Daniel Orion, Martine Guillot, Sylvie Meyer, Patrick Jolin, Philippe Saint-Cotty et Liliane Meyer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Il y a une personne de plus.
Oui. Il y a une personne de plus, là. C'est Sophie Perron, qui est en plus. Il n'y était pas. Si, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, mais ta remarque est juste, hein, Lélia. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Ah, pardon, Sophie. Une abstention ? Alors, à Affaires générales, désignation des nouveaux représentants du conseil municipal dans la commission de travail de réflexion numéro 11, culture et patrimoine de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique. Vu la délibération du 24 septembre 2020 désignant les représentants titulaires et suppléants du conseil municipal au sein des commissions de travail et de réflexion de la CARA, vu la démission de Mme Christelle Champert de ses fonctions d'adjointe au maire représentante titulaire de la commission de travail et de réflexion numéro 11, culture et patrimoine, considérant qu'il convient de désigner les nouveaux représentants titulaires et suppléants du conseil municipal au sein de cette commission. Alors, dans cette commission, c'est derrière, c'était laquelle ? Culture. Oui, c'est ça, culture et patrimoine. Alors, c'était Christelle Jean-Pierre et Philippe Saint-Cotigne. Donc, aujourd'hui, Philippe Saint-Cotigne se propose de remplacer Christelle Jean-Pierre et qu'on mette Jocelyne Pinson en donc, titulaire Philippe Saint-Cotigne et suppléante Jocelyne Pinson. Qu'il y a des questions. Oui, René.
Pour le poste à la CARA, ça.
Oui.
Il va remplacer Christelle Jean-Pierre
à oui.
La CARA. D'accord.
Oui. Par Philippe.
Le suppléant n'y va que si le titulaire ne prend pas la place.
Mais là, il sera titulaire.
Et à ce sujet, est-ce que je peux demander quelque chose, parce que je suis à la commission développement économique, à la CARA, c'est quand même une commission très importante. Et quand je ne peux pas y aller, ma suppléante, Mme Roche, ne peut jamais y aller à ma place non plus. Donc il faudra quand même qu'on reparle de ça. Et peut-être que si Mme Roche, voilà, ça nous pose problème, choisir un autre suppléant.
Ouais, mais ça, faut le repasser au conseil. Hein,
bah,
pour le passer après la CARA.
C'est pour que vous en parliez entre vous.
D'accord. Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Alors, on continue. Alors, ça, c'est Patrick, peut-être, qui va s'y mettre.
J'étais impatient d'y mettre.
Mais je sais, t'attendais avec impatience. Alors, demande de subvention auprès du conseil départemental. Alors, tu continues, tu prends le micro.
Donc, on rappelle à l'Assemblée délibérante, la délibération. Donc, du 20 mai 2021, concernant des demandes de subvention auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime, notamment pour la démolition du bâtiment de l'ancienne poste. Il informe donc que, suite à la réalisation d'un diagnostic, un désamiantage est nécessaire, et cette modification génère un coût prévisionnel supplémentaire d'un montant de 40 520 euros. Donc, on propose de modifier le plan de financement comme suit, donc démolition de l'ancienne poste, démolition donc montant 58,050, les recettes prévisionnelles subventions auprès du conseil départemental à 14 512 et autofinancement de la commune 43 537. Étendu, c'est exposé après en avoir délibéré de confirmer l'inscription du projet ci-dessus au budget principal de l'année 2021 et que le coût prévisionnel pour ce projet s'élève à 58 050 euros. D'adopter le plan de financement détaillé tel que proposé ci-dessus et d'autoriser M. le maire à solliciter le conseil départemental de la Charente-Maritime et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. Y a-t-il des votes ? Des questions ? Donc l'ampleur du désavantage est très conséquente, comme on peut l'imaginer, vu ce budget. En fait, parce que j'ai compris, donc la toiture, les peintures, enfin, l'ensemble du bâtiment, tout le bâtiment est touché et concerné par ce désamiantage.
Une boule d'amiante.
On ne savait pas au début.
C'est quand même. Pardon ?
On ne savait pas au début avant de.
Pas tout début.
Il faut faire une étude pour savoir exactement. C'est une étude obligatoire.
D'ailleurs, pour la société qui est en charge. De démolition, ça fait partie de leur cahier des charges et de leur obligation. Et puis ils ne vont pas sur un chantier sans avoir l'assurance, parce que les procédures et les contraintes sont énormes. Mais je pense qu'il n'y a que certaines sociétés qui ont l'habilité de faire ce type de travail, quoi. Parce que c'est quand même relativement à risque. Je ne sais pas d'ailleurs au niveau de la dévolution, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être isolé? Est-ce que ça va être bâché?
Normalement, en principe, c'est complètement isolé. Même parce les personnes qui vont dedans, il y a des sas et il y a des combinaisons.
C'est vraiment.
C'est
très... c'est pas inutile de le préciser quand même. Parce que si c'est dangereux pour le personnel, vu l'emplacement.
Les gravats, ils vont être
Ah ben ça va
c'est
être
traité. C'est des sas hermétiques.
Je pense que c'est des structures dédiées qui sont spécifiques pour ce type de déchets, dans tous les cas. Et d'où le coût considérable. On connaît tous les déchets. Mais des déchets de ce niveau-là, ça doit être, à la tonne, ça doit être important. Hein. D'où l'explication de la somme.
Et dans d'autres régions, c'est où? Quel est l'endroit qui traite
l'amiante? Non, je n'ai pas fait d'études sur le point.
Je
crois
qu'il y a un souci d'évacuation.
C'est la carte sur la carac, la carac.
Ah, mais après, ça s'en va dans des déchetteries spécialisées. C'est mis, en fait, c'est mis dans des sacs, on les verra peut-être dehors, qui sont complètement hermétiques. Une fois que c'est dans le sac, vous ne craignez plus rien. Et après, c'est transporté c'est des camions spéciaux, et c'est emmené pour être traité dans des déchetteries particulières.
Dans des usines.
Mais tout est extrêmement encadré.
Enfin, le coût est aussi...
C'est pour ça, hein, il y a un coût particulier et on ne peut savoir que les coûts qui se rajoutent après, parce qu'une fois que la démolition est entamée, ils font des carottages partout. Et bien souvent, il y en a dans les cols, c'est pas dans le carrelage, mais c'est dans la colle du carrelage, c'est dans tous ces éléments-là. Oui, tout à fait. Voilà. C'est...
Il y a des votes...
C'est des demandes de subvention. Là.
Oui. Ce sont des demandes de subvention. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Bon, adopté. Merci. Donc, demande de subvention auprès du conseil départemental. Donc, on a donc besoin de réaliser des travaux de mise en sécurité sur cette voie communale. Il indique que le chiffrage des travaux correspondants présentés par le syndicat départemental de la voirie et hors taxe de 51 278 euros et donc 61 533 toute taxe. Il propose donc de solliciter le conseil départemental de la Charente-Maritime au titre du produit des amendes de police en matière de voirie la réalisation de travaux de sécurité. Et entendu cet exposé et après en avoir délibéré, décide de solliciter une subvention de 40% du montant hors taxe des travaux plafonnés à 50 000 euros auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime au titre du produit des amendes de police, réalisation de travaux de sécurité, et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Les amendes de police, là, sont très utiles en la matière, apparemment. C'est très bien. Des questions concernant ce sujet?
Oui, parce qu'on se pose la question, finalement, c'est que les PV, enfin, les amendes de surbrouillet?
Non, il n'y en a pas surbrouillet. On s'était posé la question et puis j'entends. Maintenant, c'est au niveau national.
C'est national. C'est même pas départemental, c'est possible.
Non, à Brouillé, il n'y a pas d'amende. Jusqu'à maintenant.
Si. Commence bien à voir.
Ça commence.
Quels sont ces travaux de sécurité?
Et Stéphane va. C'est le monsieur le maire.
Non, mais c'est sur de la voirie qu'on a fait.
C'est quoi?
Voilà. Oui, la voirie, ça peut être un plateau, ça peut être un rond-point.
Ce que vous avez déjà fait?
On a déjà fait.
Ah, d'accord.
On a déjà fait. Bah oui, parce que les subventions, on les demande là-dessus, on les demande qu'après avoir fait les travaux. C'est avec le syndicat de voirie. Et souvent, c'est sur des plateaux.
Enfin, tout ce qui contribue à la sécurité.
À la sécurité
des usagers.
On en a eu l'an dernier aussi. Le plateau du bio, mais ça c'était l'an dernier. Puis après, le fait de la voirie, on sécurise des routes. Le fait de les mettre neuves, en état.
Et des bordures nettes, franches.
Allez, on passe.
Donc, des votes contre, non, je pense pas. Abstention. Donc, demande adoptée. Merci.
Allez.
Décision modificative numéro 2. Considérant la nécessité d'acquérir du matériel adapté pour les services techniques, le coût de la maîtrise d'œuvre concernant la construction d'un bâtiment destiné à accueillir les réunions municipales et les associations, divers travaux et les subventions obtenues, présente les modifications à apporter aux inscriptions budgétaires du budget primitif 2021. Donc, en termes de dépenses, autres immeubles corporels, 7 000, bâtiments publics, 5 000, autres bâtiments, 40, frais d'études, 75, installation générale, agencement, 23 600, et dépenses par rapport au terme du terrain nu, 15 550, soit un total d'investissement de 166 161. En termes de recettes, subventions investissement 4 382 et dotation de soutien à l'investissement local 146 229 et autres subventions d'investissement 15 550. Donc recettes 266 000 et là ça s'équilibre. C'est plutôt une bonne chose, n'est-ce pas ?
C'est tout à fait ça.
Est-ce qu'on pourrait avoir des questions sur ce développement ? Présentation.
Les frais d'études qui sont élevés à 75 000 sur les frais d'architecte.
Oui. Allez, Jérémy.
Non, oui. Juste pour la parole, parce que comme M. Gelin n'a pas fait son retour récent, on n'a pas eu le temps aussi de prendre connaissance de l'ADM et que Stéphane n'est pas là. En fait, là, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas des dépenses supplémentaires. C'est en fait, vous vous souvenez qu'on avait repéré une stratégie au moment de l'élaboration du budget, c'est de ne pas inscrire les subventions pour respecter un principe de sincérité et pour avoir uniquement des heureuses surprises. Donc là, c'est une des heureuses surprises, puisque pour l'instant, on est à 100% des subventions sollicitées, c'est qu'on vient de bénéficier plein pot de la DSIL pour la chaufferie. Donc c'est 60% de l'opération d'un coup. Et en fait, cet argent supplémentaire, on a juste l'obligation de l'équilibrer dans la section de dépenses. Donc on stocke de l'argent là où il nous paraît opportun de le stocker en prévision du budget 2022. Voilà. Donc c'est plutôt à rebours qu'il faut prendre l'ADM. C'est une recette heureuse qui n'était pas prévue au budget et qu'on redéploie dans des opérations. Donc c'est vrai que vous avez raison, Madame Meyer, il n'y aura pas 75 000 euros de frais d'études. Mais simplement, cette opération-là nous permettrait d'avoir ce qu'on appelle un reste à réaliser positif au moment du vote du compte administratif. Et donc vous aurez une enveloppe inférieure à voter pour venir compléter l'alimentation de cette enveloppe pour financer les travaux.
Donc, abstention. Donc, merci pour votre approbation.
La délibération numéro 12 a été supprimée. C'était une subvention pour les orchidées. Je ne sais pas si Jojo peut nous donner une petite précision, parce que tu as dû les rencontrer.
Oui, je n'ai pas de surnom. Ouais. L'association Orchidées avait demandé une subvention pour combler quelques petits frais. C'est-à-dire imprimerie, un peu de bâche, parce qu'ils vont faire une exposition le 22, 23, 24 octobre qui va être grandiose, donc ils avaient pas mal de choses à acheter. Donc on en a discuté et c'est vrai qu'ils demandent, ils font payer les entrées. Voilà, donc on leur fait bénéficier les 3 jours, comme toute association qui a le droit de gratuitement d'employer cette salle, d'occuper cette salle. Et donc, on en a discuté et elle l'a très bien compris. Hein. J'ai appelé madame et elle me dit, je m'en doutais un peu. Donc la subvention, on aurait pu la voter ce soir. Et comme elle demande un tarif pour l'entrée, les entrées, donc, et puis en plus, ils ont quelques orchidées à vendre. En plus, donc il y a quand même de l'argent qui va rentrer. Donc elle a très bien compris, je lui ai expliqué et voilà. Elle m'a dit j'ai tenté, mais voilà, mais elle avait le sourire, elle le savait. Donc on a décidé d'enlever la libération de la subvention pour crise.
C'est la première fois que ça t'arrive que tu as les subventions et que tu prennes avec le sourire.
C'est un début, mais c'est vraiment très bien passé.
Donc le motif principal, c'est parce qu'ils font payer l'entrée, c'est
ils font payer et puis ils ont de la vente.
Ils ont des recettes.
Ouais, ils ont des recettes, donc automatiquement, voilà. Et suivant ils font payer, il y a quand même pas mal d'exposants qui viennent un peu partout de pays étrangers. Et elle demande quelque chose aussi aux exposants, qu'elle ne m'avait pas dit et qu'elle m'a dit après.
Mais elle l'a.
Merci Jojo pour cette précision.
Je peux poser une question.
Oui.
Là, la subvention, bon, ça, ok, c'est. Mais Créa, il fait bien payer les entrées, et nous, on donne une subvention.
Oui, mais c'est pas la même chose.
Et il y a une recette pour eux, dire, qui ne revient pas à la commune. On paye 10
non, mais
euros
c'est
une subvention.
Oui, mais c'est, on ne peut pas comparer, pas comparer les choses. Je veux bien que tu dises ça, mais. C'est voilà. Alors si c'est des subventions qu'on donne. Alors Philippe pourrait répondre peut-être mieux que moi, mais je veux dire, on donne des subventions, mais si on payait des spectacles au vrai prix, s'il y en a 10 dans l'année, si on est à 5 000 euros le spectacle, ça fait 50 000. On donne 10 000 euros. Voilà, c'est pour te donner un peu l'ordre d'idée. Je ne sais pas si Philippe peut compléter.
On ne joue pas du tout dans la même cour. Là, on a une prestation entre guillemets de service de créa qui nous est rendue. Là, on aurait entre guillemets subventionné une association qui pratique une activité commerciale dans un salon, un peu délicat. Et nous, on n'a rien en retour par rapport à créa qui nous donne en retour des spectacles.
Et créa ne rentre pas dans ses frais. Je le dis aussi.
Donc, c'est absolument pas du tout comparable.
Non, mais chacun peut avoir un avis différent. René, je contredis pas ton avis. Ce qui serait peut-être important, c'est que tu regardes vraiment les valeurs, les montants, et puis je pense que ça peut être intéressant, et puis de partager là-dessus aussi avec Créa pour voir ce qui reste, ce que ça fait, même s'ils font payer les entrées ne couvrent pas forcément les spectacles.
Ils sont déficitaires.
Tu vois bien.
On renfloue tout le temps, c'est toutes les communes.
Faire venir des acteurs, je veux dire des gens pour. C'est un métier. Oui. La commune n'est pas faite pour. Il faudrait vraiment que quelqu'un se mette dessus. J'allais tourner la page, c'est pas bon ça. Alors, ressources humaines, recrutement dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, le PEC. Monsieur le maire expose depuis le 1er janvier 2018 les contrats aidés sans former en parcours emploi compétences PEC. Le parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi formation accompagnement, un emploi permettant de développer des compétences transférables à un accès facilité à la formation, un accompagnement tout au long du parcours avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail, en particulier les chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs handicapés ou les bénéficiaires de certains minima sociaux, RSA, ASS et AAH. Dans le cadre du parcours emploi compétences, chaque employeur est ainsi tenu de le faire bénéficier d'actions de formation. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Cette durée sera de 12 mois et pourra être renouvelée pour 6 mois. La durée hebdomadaire de travail sera de 30 heures. Monsieur le maire propose donc la création d'un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences affecté à l'accueil de loisirs. C'est bien précis. De recruter dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences un temps non complet 30-35e à compter du 6 décembre 2021 et pour une durée d'un an renouvelable pour 6 mois, de fixer sa rémunération sur la base du SMIC horaire, d'inscrire les crédits nécessaires au budget principal, d'autoriser le maire à signer la convention ainsi que tous les documents relatifs au recrutement. Est-ce qu'il y a des questions?
C'est déjà quelqu'un qui est en place?
Non, c'est pour à partir du mois de décembre. C'est à partir du 6 décembre 2021.
C'est pas le jeune qu'on a actuellement ?
Non, c'est autre chose.
Ah, je crois que c'était lui qu'on renouvelait.
Non, on va renouveler.
Je pouvais vous parler du service civique ?
Oui.
Marianne ?
La personne qui est au.
En fait, on a un service civique qui s'est arrêté.
Ah, d'accord.
On a un agrément, donc on va renouveler parce que c'est 106 euros par mois, donc là, il faudrait 10% privé. Et là, en fait, on fait un PEC pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, parce que c'est pris en charge à 65%
et c'est la même personne.
Pendant 18 mois. Et pour le coup, on va recruter un nouveau service civique. Mais l'ancien service civique qui connaît bien la boutique maintenant va devenir PEC
Et j'ajoute juste que suite à la commission à LSH, l'avantage énorme, en fait, il est double. C'est que, un, en taux d'encadrement, il va pouvoir rentrer dedans alors qu'un service civique ne rentre pas. Et vous savez qu'on a une augmentation de plus de 22% de la fréquentation à LSH, etc. La deuxième raison, comment par rapport à ce que vous aviez dit en commission. Non, c'est que par rapport au fait que personne, hélas, dans nos agents, alors moi, je le déplore, mais n'arrive à avoir le BAFD à part Damien Bajot, et qu'en l'absence de Damien, on se met dans l'illégalité. Alors que là, le module, dans le cadre d'un BPGEPS, le module spécifique à la direction, permet à la personne qui est là d'assurer le respect de la réglementation en l'absence de Damien Bajot. Et alors le coût à l'année, concrètement, c'est 7500 euros TTC, j'ai envie de dire, mais ça veut dire charge patronale incluse. Sur 18 mois, on va être à 14 000, sachant qu'il faut retirer 2850 que j'ai quand même compté dedans, mais qui sont certainement pris en charge par le centre de gestion, parce que ce sont les frais liés à sa scolarité, hein, parce qu'il va s'absenter une semaine, toutes les 6 semaines à peu près. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, on va arriver à la dernière délibe. Ressources humaines, convention avec le centre de gestion de la Charente-Maritime pour la mise en place du dispositif signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. La loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue notamment modifier la loi du 13 juillet 1983, subvisée en instaurant un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste, et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Le décret 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des actes de violence et de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique en fixe le cadre réglementaire afin de permettre aux collectivités et établissements publics affiliés de remplir cette nouvelle obligation. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime propose de gérer ce dispositif de signalement par voie de convention jointe en annexe de la présente délibération. Ce dispositif comprend une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Donc ça, c'est pour les employés, hein. Bien précisé. Une procédure d'orientation pour les agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés. Il concerne l'ensemble des personnels en activité de la collectivité, fonctionnaire, contractuel, de droit public ou de droit privé, élève en stage, apprenti. Le DCG 17 s'engage à assurer cette mission en toute impartialité, neutralité, indépendance et dans le respect de la réglementation ici du règlement général de la protection des données, le RGPD. De son côté, la collectivité doit s'engager à informer l'ensemble de ses agents de l'existence de ce dispositif et des modalités pour y avoir accès. L'adhésion du dispositif de signalement posé par le CDCG fait l'objet d'un versement annuel de 35 euros pour les collectivités et établissements employant moins de 50 agents à la date d'adhésion. Donc c'est pas une ruine, mais bon, c'est bien. Il faut protéger les employés. Entendu cet exposé, on a pour en avoir délibéré de conventionner avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime pour la mise en place des dispositifs de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste selon les termes de la convention jointe en annexe et d'autoriser le maire à signer tous les documents. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas. C'est obligatoire, mais bon, ça fait rien, c'est comme ça. S'il n'y a pas de questions, on va passer aux votes. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci beaucoup. C'est le prêt qu'on a fait là de 650 000 euros et qu'on l'a donc consolidé et elle a un taux annuel de 0,64%. Voilà. Ah ben sur 15 ans, ça fait. C'est marqué sur 15 ans, ça nous fait. Oui, sur 15 ans, ça fait même pour. Ouais. Comme dit Jérémy, ça fait, c'est pas marqué dessus, mais ça fait rien, ça fait 30 000 euros à peu près, sur 15 ans, sur 650 000 euros. Ouais, ben oui, 600, on rajoute 30 000, ça fait 680 000 euros. Non mais ça c'est du rêve. Jérémy aimerait avoir les mêmes taux pour acheter sa maison. C'est plus compliqué. Ça, c'est la poste. La banque postale. 0,64. Voilà. Et il y a une condition d'engagement de 0,10% du montant du contrat de prêt.
Il n'y avait pas de pénalité en cas de remboursement anticipé ?
Non, aujourd'hui, ils vont nous payer, mais si on ne rembourse pas. Non, je plaisante, mais bon. Non, mais après, c'est des prélèvements mensuels. Oui, c'est mensuel.
C'est un prêt pour plusieurs travaux, hein, c'est ça ? Entre autres, la nouvelle construction.
Tout à fait, la nouvelle construction.
Majoritairement.
Alors, questions posées au maire. On va arriver à la fin. Donc, j'en ai eu deux.
Est-ce que vous pourrez nous les lire, nos questions, monsieur le maire ?
Ouais, mais je vais les lire.
Non, mais est-ce que nous, on pourrait les lire, nos questions ? Non ? Vous tenez à vous lire ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que dit la réglementation là-dessus. Parce que c'est...
Je pense que c'est au récipiendaire de les lire.
C'est à moi de les lire, normalement, je pense. Hein. Après, y a rien, on ne va rien changer. Hein. Un texte. Hein. Est-ce que vous l'avez peut-être sous les yeux ? Oui, non, mais après, il n'y a rien. Moi, j'ai rien à cacher là-dedans. Hein. Alors, il y a deux questions. Alors, la question, c'est vouloir augmenter aussi rapidement le nombre d'habitants à Broyer en augmentant le nombre de logements ne risque-t-il pas de nous exposer à une perte d'identité du village ? Actuellement, plutôt pavillonnaire, ça c'est entre parenthèses. Qui verra des immeubles de deux étages se construire comme cela est prévu rue du Centre ? D'autre part, face à un tel changement, les modifications des infrastructures ont-elles été anticipées ? Voilà, alors.
Ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure avant de
se faire. Tout à fait, ça revient exactement à la même discussion.
C'est vrai que je pense qu'il faut s'inquiéter de. Des nuisances, des problèmes d'odeur. Après, il y a le problème esthétique de l'entrée du village.
Oui. Donc les infrastructures, elles, vont être peut-être modifiées, on va voir ce qui va être fait. Et puis après, il y a les infrastructures aussi communales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a une augmentation d'habitants ou de jeunes parents, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres enfants à l'école, à la cantine. Et... Ça, c'est des discussions qui existent déjà. Au niveau de notre groupe, on en parle. Voilà. Alors après, il faudra qu'on en parle tous ensemble. Mais on parle de ça, hein, déjà. Alors le problème, est, c'est dommage. Je ne sais pas si j'étais là, mais... Parce que, justement, la population va être informée, et je pense que c'est important aussi, si on peut prendre 5 minutes. Il y a Patrick qui est pressé, mais ça ne fait rien.
C'est l'octobre rose,
c'est ça. Oui. Donc, on a fait un papier là, qui va sortir ce week-end, là, qui s'appelle Les Gros Relais, que vous connaissez déjà, et qui est sur l'urbanisme et l'aménagement. Et puis le City Stade aussi qui a été fait. Donc, on est dans un passage, à mon avis, qui est assez compliqué, qui est assez complexe. Parce que si on regarde la population, qui augmente de 2,5 à 2,6 habitants par an, on serait en 2022 à 3296 habitants, et à ce rythme-là, on risque d'être 3500 en 2025. Donc c'est là où on est sur une corde raide qui pour nous, devient compliquée. Et si on n'anticipe pas, c'est pour ça que c'est compliqué. Je l'ai dit, j'ai même mis que pour moi, si vous avez vu le vide ici, j'ai quelques pages dedans où j'ai pu écrire, ça a été le PLU, le moment le plus difficile de l'ancien mandat. Et aujourd'hui, c'est l'application du PLU et c'est très difficile. Il faut qu'on soit très prudent ici. Même par rapport à la population, parce qu'on est dans une situation qui risque d'être tendue. On a beaucoup de demandes de logements, c'est quasiment tous les jours. Et comment on les construit, qui les fait, et voilà. Donc ça veut dire qu'en 2025, 3500 habitants. À partir du moment où on est 3500 habitants, on a 3 ans, je vous le dis, on a 3 ans pour construire 340 logements. En prenant l'année 2018. Donc si on prend l'année 2018, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2018 à 2025, on aura de l'augmentation de population. Donc des logements supplémentaires. On ne sera pas à 350, à 340. Ce sera peut-être 400 logements. Alors le calcul, il est fait comment? On prend tous les logements qui sont sur la commune, on enlève les logements aidés, on enlève les résidences secondaires, on garde que les résidences principales et on multiplie par 25%. Donc en 2018, on était à 1366 résidences principales. Multiplié par 25%, ça donne 340 logements. Voilà. Donc après, on est devant un dilemme. Plus on va construire, plus on va augmenter la population, plus on va... Mais si quelqu'un peut m'expliquer comment on fait aujourd'hui, je suis prêt à entendre, à écouter et à mettre en pratique si c'est possible. Mais là, on est dans un dilemme très complexe. Parce qu'on est juste à la charnière. Juste à la charnière. Si on commence à faire des logements aidés, des logements sociaux, sous toutes les formes, hein, parce que je sais qu'on associe toujours... Et ça, c'est désagréable au possible. On est 70%, même 77% des gens, des habitants de France à avoir un logement aidé. On est toujours logement social avec délinquance. Il faut arrêter. Moi, j'ai une retraite de 800 euros. Je le dis, j'ai droit à un logement social. Monsieur, je suis maire, ben je suis délinquant. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On est 70% de la population à être délinquant. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, mais je veux dire qu'il faut qu'on les règle. Quel, quelle démarche on a aujourd'hui. Comment on aborde ce sujet sereinement. Il faut être serein. Il faut pas se rester buté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la commune? C'est pas le maire. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc, il y a des propositions qui sont faites. Il y a des terrains qui sont achetés par les privés, qui font des propositions. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte, on n'accepte pas. On a peur. C'est vrai qu'on a peur d'avoir une autre, d'autres, des personnes qui viennent de l'extérieur, d'une autre population qu'on ne connaît pas. Et tout. Mais je regrette, mais quand même, Breuillet est une population qui est complètement différente de ce qu'elle était il y a 40 ans ou 50 ans. Moi, je suis né à Breuillet, il n'y avait pas de maison entre Breuillet et Lortuge. Je m'excuse, mais ce n'est pas construit. Donc on a bien apporté de la population. On ne connaît pas toujours. Mais des fois, on est un peu déçu aussi. Qui arrive. Je le dis, il faut être honnête. Parce qu'on, voilà. Des fois, on est très content, des fois, c'est moyen. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des histoires de voisinage. Et de, voilà. Il faut être sérieux. Quoi. Donc là, on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le pas ou pas? Parce que, aussi, le préfet guette. C'est comme quelqu'un qui a un bâton et qui guette une souris au trou. Quand tu vas sortir la tête, il va dire, vous n'avez rien fait. Donc, pénalité à bloc. Vous avez commencé justement à faire des logements aidés. On le connaît, le raisonnement, on l'a eu dans les autres communes. On l'a. Vous avez commencé, vous avez prévu, vous avez fait. Donc, les pénalités seront moins élevées. Il sera pas intransigeant. Il essaiera de discuter. On pourra discuter. Donc c'est là où on est dans une situation qui est charnière. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que la question de Sophie aussi, et que vous avez posée tous les trois, je veux dire la question, c'est une question de fond. De fond, de visibilité. Est-ce qu'on augmente la population? Est-ce qu'on n'augmente pas? Est-ce que... Mais on n'est plus au piège. On augmente de 2,5% par an. Voilà. C'est une question qu'on doit avoir en réflexion chacun et essayer d'avancer avec ça.
Simplifier en disant qu'on a peur des nouveaux arrivants. Enfin, c'est pas le débat, il n'est pas sur ce sujet-là. C'est qu'on veut voir un village grossir aussi rapidement. C'est tout. Après,
oui, mais si tu fais 47 logements, tu multiplies par 3 ou 2 ou 3 par logement, ça fait déjà 150 personnes.
Pour moi, le débat,
non, mais c'est comme ça. Mais comment on peut faire autrement?
Justement, on avait soumis la question il y a quelques conseils municipaux, on avait demandé ce que éventuellement soit créé une commission ou un groupe de réflexion sur ce sujet-là pour qu'on puisse préparer, anticiper. Moi qui suis arrivé sur la commune, j'ai pas eu l'impression de susciter la crainte ou la peur.
Mais c'est pas ça, non, parce qu'on n'est pas dans le même, t'es dans le pavillonnaire, donc c'est autre chose. T'es dans le pavillonnaire, donc il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien qu'il y a eu des pétitions. Oui, les gens sont dans le pavillonnaire aujourd'hui. Donc ça ne pose pas de problème. Mais quand on va commencer à concentrer de l'habitat sur des logements ou sur des appartements, on va dire faut dire les choses, appeler un chat. Hein. Donc comment ça va se passer? Voilà, c'est ça le problème. On le voit déjà au clos du prieuré. Voilà, on sait très bien qu'il y a des gens dedans qui sont peu fréquentables ou qui sont difficiles. On arrive à en faire partir un, mais c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc c'est là. Et il y a eu des pétitions quand on a fait le PLU. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein, où les gens signaient contre les zones, les OAP ou les zones AU. Hein, parce qu'on a peur, on craint. Je peux comprendre. Des gens qui viennent de la région parisienne ou qui viennent du nord ou que sais-je, de villes où il y a des problèmes déjà de population, est-ce qu'on les ramène ici? Est-ce qu'on fait pareil? Voilà, ou est-ce qu'on fait différemment? Mais c'est compliqué. C'est ce que je dis, on est une charnière. Comment on la prend, la charnière? On met de l'huile ou est-ce qu'on la laisse rouiller? C'est ça.
Mais est-ce que c'est pas les grandes villes qui se délocalisent sur cette population-là, sur nos campagnes?
Je ne sais pas, moi j'ai bien aimé le discours du monsieur, je n'ai pas son nom. Si c'est la vérité, si c'est la réalité qu'on peut y savoir, 70% 80% des logements qui sont pour les habitants de Broye ou alentour, parce que ça sera compliqué, il faudra voir comment on le fait. Voilà. Parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants, on a des parents. On a des parents qui sont à l'extérieur du... Moi, j'en ai plus de parents, mais il y en a d'autres qui sont à l'extérieur de Broye et qui veulent se rapprocher du centre et qui ont des petits revenus. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les habitants, les vrais habitants, je m'excuse, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais les habitants d'origine de la commune ont des petites retraites, hein, toutes petites retraites. Et c'est eux qui commencent à demander, pour, en vieillissant, en disant, mais nous, on aimerait se rapprocher du centre. Voilà.
L'augmentation jusque-là, de, si je peux m'insérer un peu dans le truc.
Bah si.
L'augmentation de la population jusque-là n'est pas due aux gens dont vous parlez, là.
Non, mais non.
Jusque-là, c'est pavillonnaire, comme vous dites, Broye.
Oui.
Donc l'augmentation de Broye, si on arrive à 3200 personnes, c'est pas dû à ces gens-là. C'est
non.
Dû à...
Non.
Voilà.
Non. Mais c'est... Quand on commence à construire...
C'est dû à des gens aisés qui sont arrivés à Broye et...
C'est dû à un pays favorable.
Donc, quoi qu'on fasse, elle monte.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit.
Donc, à un moment donné, les 3500, ils tombent. Mais pas parce qu'on a fait venir des gens, comme vous dites, là, des gens de l'augmentation. C'est jusque-là, c'est monté. Parce qu'on en a...
Naturellement.
Naturellement, parce qu'on n'en a pas de ces gens-là. Et la population, elle monte.
Mmh. Et puis en plus, il y a eu
Donc à la fin, il faut fermer les portes pour tout le monde.
Au point de vue,
mais ça va pas être facile.
Surface mètre carré là, de terrain, on a fait des petites parcelles. Donc tu incites à avoir encore de plus en plus de gens.
Oui, mais ça, alors ça, c'est le règlement de la loi, c'est le PLU. Le PLU, aujourd'hui, on peut construire suivant les zones à 400 mètres carrés.
Oui, oui.
Ça, c'est utiliser
le
moins possible d'espace naturel. Pour ne pas taper dans les terres agricoles, ni dans les forêts, ni... Non, on pourra en parler des forêts. Parce que c'est pareil, on est en train de faire une commission spéciale pour conserver des bois, et ça va être compliqué. Je reviendrai à ce que disait Laurent tout à l'heure par rapport à... Dany va nous présenter le PD... Pas le PD, je veux dire l'urbanisme, le 8. Donc il va faire une commission spéciale pour ça. Justement, et on pourra discuter. Voilà. Et on est en train de faire une commission aussi pour les arbres, les plantations d'arbres. On a des subventions pour planter, parce qu'on nous a fait le reproche d'avoir coupé des arbres au niveau du parc pour faire le City Stade. On a dit qu'à chaque arbre coupé, on en plantait deux. Aujourd'hui, on a trouvé les 12 essences, les 4 essences, mais il y a 3 arbres par essence, et il y a des subventions pour replanter les arbres. Donc on va replanter des arbres, des noisetiers, des chênes, des frênes, et châtaigniers. Voilà, donc on va replanter, on est là. Et il faudra qu'on replante, qu'on regarde aussi pour replanter, et on a des subventions, et on fait ça avec l'école. Il y aura une nouvelle commission qui va se...
C'est pas une nouvelle commission.
C'est un groupe de travail.
Un groupe de travail,
voilà. Comment on fait pour y aller, pour y participer?
Je ne sais pas. Il y a un groupe de travail dessus, on peut l'ouvrir. Hein.
Nous, on en a parlé en commission développement durable.
D'accord. C'est quoi qui... Est-ce que c'est les candidatures ou c'est quoi les...
Non, mais... C'est-à-dire que le groupe est déformé.
Alors, il y en a une deuxième question. On pourra en reparler de celle-là. Deuxième question, c'est concernant les fresques très appréciées que l'on peut observer dans Broye grâce à la dernière édition du Sentier des Arts. Comment vont se positionner les élus? Y aura-t-il une commission ou une réunion pour débattre du devenir de ces œuvres? Et envisager ensemble laquelle garder ou non en fonction du prix proposé. Alors, c'est une question qui m'a déjà été posée, en dehors de cette question. Les gens sont ravis tous les jours. Il a fallu un petit peu réimprimer le circuit pour que ce soit plus facile à trouver, mais les gens sont ravis. Alors, la question, moi, je ne peux pas donner la réponse comme ça. Parce que ceux qui les ont fait, les fresques, ils sont payés pour les faire. Et après, Est-ce qu'on les conserve? Est-ce qu'on ne les conserve pas? Parce que normalement, les fresques, ils doivent les remettre en l'état. Du moins, le support doit être remis en l'état comme il était avant la fresque. Donc voilà. Il y en a qui vont disparaître toutes seules, il y en a d'autres qu'on peut conserver. Quel sera le prix? Comment on décide? Aujourd'hui, je ne peux pas donner la réponse. Donc ça, c'est une question qui sera posée à la CARA, et puis il va falloir s'asseoir autour d'une table pour savoir. Moi, je ne mettrai pas des milliers d'euros, je le dis quand même, pour des fresques. Quelques euros, oui, je m'entends, des milliers, je ne vais pas mettre 15 ou 20 000 euros. Je ne sais pas le montant que ça peut coûter, mais on sait que les peintres sont bien payés quand même. Alors, les payer deux fois, je veux bien, mais bon, l'argent public, il faut quand même... Oui, mais il y en a une partie qui est sur des biens privés.
Oui.
Ah ben, c'est ça. Les deux gamins qui regardent la carte postale, là, ils sont sur un bien privé, ils ne sont pas sur un bien public. Ceux qui sont sur l'estrade, là, c'est sur un bien, c'est sur un bien public, mais voilà.
Est-ce qu'il va falloir, si on doit les conserver, rajouter un produit pour imperméabiliser et les fixer, les figer. Parce qu'avec le temps, ils vont partir tout seuls. Ouais. Donc il y a un coût de mise à niveau en fait. Il faut remettre un film, il faut remettre des peintures isolantes.
Donc aujourd'hui, je ne peux pas donner la réponse.
La question c'était est-ce qu'on en discutera ensemble, c'est tout.
On va être obligé, oui. De toute façon, s'il y a une dépense, il faut bien en discuter ensemble. Hein. Aujourd'hui, elle n'est pas inscrite au budget. Hein.
D'accord.
Sauf que il y a une date butoir, c'est le 14 novembre.
14 novembre.
Donc, ça va être trop
tôt. Encore un mois et demi, quoi, à peu près. Oui, et puis je pense qu'on peut, en discuter. Il n'y a pas de problème là. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon. Merci à toutes et à tous. Merci au public.